À tourner dans vos Bibles, le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 8. Apocalypse, chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors nous continuons notre étude du livre d'Apocalypse et en particulier les lettres aux 7 églises. Et ce matin, nous allons porter nos regards sur l'église de Smyrne, l'église des martyrs. Et cette église est située, bien sûr, dans la ville de Smyrne, qu'on appelait à l'époque la couronne de l'Asie, parce qu'elle était la plus belle ville d'Asie mineure, qui est aujourd'hui la Turquie. Et cette ville était reconnue pour sa loyauté envers Rome. Et cela a été démontré par une pratique fervente du culte à l'empereur, que l'on considérait comme un dieu. Et pour l'honorer, on disait « César et Seigneur ». Il y avait aussi dans cette ville une importante communauté juive, mais qui était très hostile à l'égard des chrétiens. Et les historiens nous racontent que Polycarpe, qui était un des disciples même de l'apôtre Jean, l'auteur de l'Apocalypse, quelques 50 ans après la mort de Jean, Polycarpe se trouvait dans cette même ville, à Smyrne, dans l'arène et devant une foule sanguinaire. On lui a ordonné de blasphémer le nom de Christ s'il voulait avoir la vie sauve. Polycarpe a répondu calmement, « Ça fait déjà 86 ans que je le sers et il ne m'a jamais fait du tort. Comment pourrais-je donc blasphémer le nom de mon Seigneur, celui qui m'a sauvé? » Il fut brûlé vif sur le champ. Chers amis, mettons-nous dans les sandales de Polycarpe ce matin. Comment auriez-vous réagi dans une telle situation? Comment aurais-je, moi, réagi dans une telle situation? Vous savez, on nous propose toutes sortes de scénarios. Le Seigneur donne une grâce spéciale dans de telles circonstances. Et oui, j'en suis convaincu. Mais je pense que la solution va plus loin que cela. Quelques-uns auraient peut-être proposé, mais ils auraient pu blasphémer le Seigneur par ses lèvres et pas dans son cœur, et ensuite demander pardon. Par vos réactions, je voyais que vous n'êtes pas d'accord. Alors la question se pose, comment est-ce possible de faire face à la persécution et de rester fidèle? Est-ce possible que l'on puisse se préparer pour une telle éventualité? Et si oui, comment peut-on se préparer pour une telle éventualité? Alors ce matin, notre texte que nous avons devant nous nous propose trois étapes. Trois étapes à franchir pour faire face à la persécution de façon victorieuse. Et en l'étudiant, j'aimerais vous exhorter, et moi-même aussi inclure, à nous engager à les mettre en pratique. Alors, dans un premier temps, soyez conscients, première étape à franchir, soyez conscients de la réalité de la persécution. Regardez dans votre texte, si vous voulez, au verset 9, où le Seigneur va dire à cette église, « Je connais ton affliction, ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne l'en sont pas. » Et ça, ici, nous avons une église qui a expérimenté la persécution. Et chers amis, c'est un principe biblique incontournable. Jésus avait averti ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Prenez courage, j'ai vaincu le monde. L'apôtre Paul avait dit à son jeune disciple Timothée, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ça, c'est le principe. Vous pouvez aussi maintenant se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi en est-il ainsi? Il faut se rappeler que nous sommes dans une guerre spirituelle. Il ne faut pas se leurrer. Une guerre entre les forces du bien et les forces du mal. Une guerre entre Satan et Dieu. Et puisque Satan est en rébellion contre Dieu, et il est tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu possède, alors, par extension, il vous est aussi. Et l'authentique chrétien de Dieu, et même s'il ne peut pas vous enlever votre salut, il va faire tout dans son possible pour vous causer des torts. Ça, c'est le pourquoi de la persécution. Il y avait la persécution dans le temps des apôtres. Et même, on peut remonter même au tout début. Dans le temps de nos premiers parents, Adam et Ève, on voit la persécution là, entre leurs deux enfants, Caïn et Abel. Et que dit le texte? Nous sommes exhortés à ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Et à cause de cela, il y avait justement cette persécution qui a amené est allée jusqu'à la mort. Alors, soyez conscients du principe, soyez conscients aussi du pourquoi, mais aussi soyez conscients du portrait. Parce que la persécution peut avoir plusieurs visages. Ce matin, notre texte nous en mentionne deux. L'affliction et les calomnies. Ce mot peut être traduit par tribulation, un tourment, une détresse, la souffrance, calamité, persécution. Ce sont les situations qui exercent une pression sur l'individu. C'est comme si on vous mettait dans un étau géant, là. Puis on commençait tranquillement à serrer l'étau. Ceux et celles d'entre vous qui souffrent de migraines, vous savez de quoi je parle. Hein? Quand vous avez une violente migraine, Et là, vous avez l'impression que votre tête va éclater, comme si votre tête est dans un étau. Mais ça, c'est le sens de ce mot-là, l'affliction. Et les calomnies, on parle de blasphème, on parle de paroles injurieuses, d'insultes, des paroles qui attaquent la dignité de l'individu dans le but de causer une souffrance morale. Et dans le texte, nous voyons que ces attaques venaient de ceux qui se disaient juifs, mais qui ne l'étaient pas, qui veut dire simplement qu'ils étaient juifs de nom, pas le vrai juif qui est un descendant spirituel d'Abraham. Un vrai juif n'aurait jamais fait cela. Ils étaient juifs physiquement. Effectivement, ils étaient aussi pires que les païens. C'est pourquoi, en attaquant les chrétiens, ils étaient devenus un outil entre les mains de Satan. C'est pourquoi le texte les appelle une synagogue de Satan, un autre nom pour le judaïsme qui persécutait les chrétiens. Et ajouté à cela, vous avez une église qui vivait dans la pauvreté. Si au moins cette église avait un peu de commodités de base de la vie, elle aurait peut-être pu trouver un peu de réconfort dans les choses tout à fait légitimes. Mais en plus de ça, cette église était pauvre. Alors une église qui est dans la misère, comme on dit, une église qui en a arraché. Mais au beau milieu de tout cela, nous avons de l'encouragement. Et ici, on parle maintenant que où il y a la persécution, en parallèle avec cela, vous allez trouver quelque chose aussi qui est très importante, la prêtrise du Seigneur Jésus-Christ. Le fait que notre Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, qui est assis à la droite de Dieu, qui intercède pour son peuple. Et dans ce texte-là, le Seigneur se présente à son peuple comme le premier et le dernier, verset 8. Pour les encourager, de leur dire, n'ayez pas peur, vous êtes dans l'affliction, vous êtes dans la persécution, mais moi je suis Dieu. Il va prendre la même appellation de Yahvé dans l'Ancien Testament, le premier et le dernier, pour rappeler à cette église qui est en contrôle. Et deuxièmement, il va dire aussi celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Pour aussi le rappeler qu'il n'était pas indifférent à leur souffrance. Pour rappeler à cette église qu'il pourrait, il comprenait parfaitement la situation, qu'il pourrait aussi leur soutenir dans cela. Je vous lis deux textes qui nous montrent cela. Dans Hébreux chapitre 3, pas besoin d'y tourner, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté ou éprouvé, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et quelle belle consolation de savoir qu'au beau milieu de ce portrait qui est sombre, le Seigneur dit, je suis le premier et le dernier, je suis le Dieu. Je suis en contrôle. Et je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je sais ce que vous êtes en train d'expérimenter parce que j'ai passé par là. Et je peux vous secourir dans ces choses. Alors ce matin, si vous passez par un moment difficile, soyez encouragés. Le Seigneur est en contrôle et le Seigneur est plein de compassion pour ce que vous êtes en train d'expérimenter. Deuxièmement, pour faire face à la persécution, soyez non seulement conscients de la réalité, mais aussi soyez courageux dans les réactions face à la persécution. Et le texte nous en donne deux. Si vous regardez au verset 10, nous voyons 10a, le texte nous exhorte, et le Seigneur Jésus-Christ exhorte cette église d'être courageuse. Ne crains pas. 10a. Sois fidèle. 10c. Tout d'abord, de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Vous savez, le petit Larousse définit la crainte ou la peur comme un sentiment de forte inquiétude, d'alarme en présence ou à la pensée d'un danger, d'une menace. Ça, c'est la crainte, la peur. Une inquiétude, des angoisses, parce qu'on pense à une menace, on pense à un danger. Et cette crainte peut être raisonnable ou elle peut être déraisonnable. Et là, on tombe dans les phobies. Mais ce n'est pas mon sujet pour ce matin. Ne vous inquiétez pas. Okay. Dans le cas de l'église de Smyrne, cette menace, ce danger était réel. Ce danger venait dans un premier temps du diable. Celui qu'on nomme l'accusateur, le prince des démons, l'auteur du mal, le persécuteur des bons. Et que dit le texte? Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Bon, bien sûr, on ne prend pas ça de façon littérale. Mais le Seigneur avertit cette église que déjà, vous êtes dans la persécution, mais une nouvelle vague de persécution allait déferler sur cette église et l'instigateur serait nul autre que leur ennemi juré, le diable. Il y avait cette menace alors de persécution satanique, il y avait aussi la menace de l'emprisonnement pour quelques-uns. Le texte dit, le diable jettera quelques-uns de vous, entre vous en prison. Et vous savez, à l'époque, les prisons, dans ce temps-là, ne ressemblaient pas aux nôtres. Il n'y avait pas la télévision, circuit fermé, tant de câbles, ou whatever. Il n'y a pas de 3 bons repas par jour. Il n'y avait pas une salle d'exercice ou d'entraînement. Mais non, c'était des endroits redoutables, froids souvent, humides, infestés souvent de vermine. Et le repas qu'on servait, c'est évident qu'ils ne consultaient pas le guide alimentaire. Et malheur à vous si vous étiez juif, parce qu'on ne vous servait pas cachère. Et si vous étiez musulman non plus, pas de nourriture halal. Bref, il n'y avait pas d'accommodement raisonnable dans ces prisons. Et finalement, il y avait la menace de la mort. Cet ennemi de l'homme qui est impitoyable, qui frappe tous sans tenir égard leur statut, roi, serviteur, diplômé, illettré, vieillard, nourrisson, bref, homme, femme, tout le monde y passe. Et cette église ici est sous cette menace aussi de la mort. Et pour ces chrétiens de Smyrne, ça pouvait indiquer d'être décapité, d'être brûlé, d'être jeté aux fauves. Et pourtant, face à cette menace qui est là, puis juste en y pensant, là, c'est assez pour nous glacer le sang. Le Seigneur va dire à cette église, ne crains pas. Et à ce stade-ci, je peux anticiper 2 questions tout à fait valables. Comment fait-on pour ne pas craindre face à la souffrance que la persécution peut apporter? La réponse à cette question va nous amener à notre deuxième principe. C'est un principe qui gouvernait la vie de l'apôtre Paul, et c'est un principe aussi qui devrait gouverner la vie de tout enfant de Dieu, tout chrétien authentique. Dans Actes chapitre 20, pas besoin d'y tourner, mais Paul est là, il s'en va à Jérusalem, il va faire escale à Milet, il va faire venir des anciens de l'église d'Éphèse. Et là, ils vont entretenir avec eux. Et dans son discours, il va dire ceci: je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations, de notre même mot affliction dans le texte, des persécutions m'attendent. Et quelle est son attitude face à cela? Mais écoutons sa réponse. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Et dans ce même livre d'Apocalypse aussi, au chapitre 12, nous n'avons pas besoin d'y tourner, mais nous avons aussi un propos des chrétiens. On nous dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ça, c'est le principe qui permet de regarder la tribulation, la persécution en face et ne pas avoir peur. Parce que plus que vous êtes attaché à cette vie, plus que vous voulez la préserver, plus qu'elle vous est précieuse, mais plus tout ce qui la menace devient épouvantable, devient épeurant, devient angoissant, et vice-versa. Moins que vous êtes attaché à la vie, moins les choses qui la menacent vont vous affecter. Ce n'est pas pour rien que les personnes qui sont très téméraires, là, on les appelle des casse-cous. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur de ce qui peut leur arriver. Alors, ils vont faire n'importe quoi. Ils sont prêts à affronter des choses dangereuses. Alors, on nous raconte qu'il y avait un groupe de missionnaires qui partait pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je pense que j'ai bien prononcé. Et c'est une terre à l'époque habitée par des chasseurs de têtes. On l'avait surnommé le cimetière des missionnaires. Et quand quelqu'un a remarqué à ce groupe de missionnaires, mais ne savez-vous pas où vous allez? Ne savez-vous pas le danger que vous courez? Ne savez-vous pas que vous pouvez tous mourir? La réponse des missionnaires fut celle-ci: Dieu décidera de notre sort. De toute façon, nous sommes déjà morts. Vous savez, leur vie, ils ne regardaient pas leur vie comme précieuse. Alors, non seulement une telle attitude basée sur le principe de ne pas considérer la vie comme précieuse permet de ne pas craindre, mais ça permet aussi d'être fidèle. Et ça, c'est la deuxième réaction que le Seigneur veut de tout chrétien authentique: soit fidèle. Vous savez, en anglais, le mot fidèle est traduit par faithful, full of faith, plein de foi. Et si vous cherchez dans le texte original, la même racine pour le mot foi, c'est la même racine pour le mot fidèle. Alors, montrez-moi un homme ou une femme plein de foi, fidèle. Vous montrez quelqu'un, oui, qui est fidèle, et vice-versa. Et le Seigneur est en train de dire à cette église: fais-moi confiance. Et ce matin, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails là, de l'épreuve de la foi du chrétien. C'est un gros sujet, c'est un beau sujet. Mais j'aimerais juste simplement vous dire que Dieu permet l'épreuve. Dieu contrôle la durée. Si l'épreuve est acceptée comme venant de lui, on peut bénéficier des moyens qu'il nous fournit pour en sortir victorieux. Et l'épreuve a pour but de glorifier Dieu et pour raffiner le chrétien pour qu'il ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Et ma prière pour vous ce matin, pour moi, c'est que nous soyons tous capables, par la grâce de Dieu, de dire avec Job. Job était dans une épreuve terrible. Et pourtant, il a pu dire ceci: Voici quand même qui me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Et encore, s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme de l'or. Finalement, j'aimerais vous apporter une consolation ce matin. Soyez consolés par les retombées de la persécution, surtout celle qui conduit à la mort. Parce qu'ici, il faut aussi, je vais anticiper une deuxième question. La première question, c'est comment est-ce que on peut ne pas craindre? Je vous ai dit la réponse, de ne pas regarder la vie comme précieuse. La deuxième question, c'est comment ne pas regarder la vie comme précieuse? La réponse, c'est de focaliser, pas sur la vie, mais de focaliser sur la mort. Et ce que la mort peut vouloir dire pour un chrétien authentique, et les retombées de la mort. C'est notre troisième principe. Ici, il y a un passage dans 1 Pierre, chapitre 4, pas besoin d'y tourner, mais ça devient un passage qui est parallèle et qui est d'une importance capitale pour comprendre ce principe. Pierre va dire ceci, « Aussi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Ça, c'est notre principe. La souffrance est là, la persécution est là. Ça va arriver un jour. Il faut être armé avec cette pensée. Et là, il continue. « Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Regardez bien qu'est-ce que Pierre est en train de dire. Qu'est-ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ? Il a souffert dans la chair. Il est mort à la croix. Quel est le pire scénario qui peut arriver à un chrétien authentique dans la persécution? Il peut aussi mourir. Le Seigneur les exhorte, sois fidèle jusqu'à la mort. Mais il y a une paradoxe ici. Paradoxalement, c'est aussi la meilleure chose qui puisse lui arriver. C'est pourquoi j'ai parlé des retombées. Le texte dit que celui qui a souffert, ça veut dire qu'il est dans la persécution, comme Christ qui est mort, lui aussi qui meurt, on a fini avec le péché. Et j'ai envie de crier gloire à Dieu, faire une danse en haut, mais je ne le ferai pas. Vous savez, la mort du chrétien signifie une libération, une émancipation éternelle du péché. Et si ce n'est pas assez pour vous faire, justement, vous lever et crier « Alléluia, gloire à Dieu !» Le chrétien, quand il meurt, justement, est libéré. Le texte dit « Il en a fini avec le péché. » Libéré totalement, justement, de cela. Deuxièmement, la mort du chrétien va lui procurer une élévation. Le Seigneur a dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Ici, il est en train de parler, justement, des athlètes à l'époque. Le parallèle est là. Dans les Jeux olympiques, on leur donnait un laurier. Justement pour les vainqueurs. Et le Seigneur est en train de dire à ces chrétiens fidèles, vous qui remportez la victoire en vous, les chrétiens authentiques, qui par la persévérance des chrétiens vont remporter la victoire, vous allez rentrer dans la plénitude de la vie de Dieu. Vous y goûtez partiellement ici sur la terre, vous avez la vie éternelle, mais la mort va vous amener maintenant dans la plénitude de la vie de Dieu. Ça, c'est une deuxième retombée. Ça, c'est une élévation. Et quelle élévation pour les fils d'Adam comme nous, vous et moi, qui étaient tombés si bas par la désobéissance d'Adam, maintenant d'être élevé si haut, devenir des fils de Dieu, des filles de Dieu, des princes, des héritiers, et de rentrer dans la plénitude de la vie de Dieu. Et la mort nous amène dans cet état. C'est pourquoi le Seigneur a pu dire, sois fidèle jusqu'à la mort. Alors, si vous êtes un chrétien qui aspirait justement à finir avec le péché, vous aspirez à goûter pleinement la plénitude de la vie de Dieu, la vie sur la terre ne vous sera plus précieuse, ça va être la mort plutôt qui sera précieuse parce qu'elle va vous donner ces choses. Mais là, j'anticipe quelques-uns qui vont dire, ah oui, c'est correct, parlez-moi d'une belle mort, là, je suis dans un cercueil, puis bien arrangé avec un bel habit, c'est une femme, une belle robe, entouré de roses, ça sent bon, la famille est là, les chants, et ainsi de suite. Pas de problème. Mais qu'en est-il pour les chrétiens de Smyre? C'était la reine, c'était la torture, c'était les fauves. Ça, c'est des morts atroces. Ne me dites pas que je devrais, vous seulement, avoir hâte à une telle mort. Mais regardez le texte. Le Seigneur va conclure en disant, celui qui vaincra n'aura pas à subir la seconde mort. Il dit, minute. Regardez de quoi je vous ai sauvé. Parlez un peu de la seconde mort. Vous voulez comparer les choses? La seconde mort ou les temps de feu, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, là, mais faites une étude là-dessus. Vous allez constater, là, c'est une mort atroce, une mort éternelle. Les temps de feu, l'enfer, où est-ce qu'il y a des souffrances éternelles, et ça n'arrête jamais. Le Seigneur est en train de dire à ces personnes-là, même si vous subirez une mort atroce, comparé à la seconde mort, là, c'est des peanuts, comme on dit en bon québécois. Vous n'aurez pas à subir cela. Et vous savez combien de fois, quand on est exempté de quelque chose, ça nous donne la joie, parce qu'on n'a pas besoin justement de le faire. Le Seigneur va encourager ces chrétiens en leur disant, « Ok, je sais que ça va être difficile, mais juste réfléchissez à un instant sur de quoi je vous ai sauvé, la seconde mort. » Vous savez, je termine avec ceci. On raconte l'histoire de Jim Elliot, quelques-uns entre vous, vous le connaissez, ce jeune martyr qui avec quatre autres ont perdu leur vie en Amérique du Sud. Ils ont été transpercés par les lances des guerriers d'une tribu, Oka. Ils voulaient justement évangéliser ce peuple. Et Jim Elliot avait écrit dans son journal intime quelques jours avant l'événement. Et je vous lis en anglais, ensuite je vous donne la traduction en français. He is no fool who loses what he cannot keep. To gain what he cannot lose. En français, ça dit ceci, celui qui perd ce qu'il ne peut pas garder ou retenir pour acquérir ce qu'il ne peut pas perdre, celui-là, ce n'est pas un insensé. Et Jim Elliot avait bien compris le principe. Vous savez, le mot smyrne veut dire myrrhe. La même racine du mot. Et la myrrhe, c'était un parfum qu'on utilisait pour embaumer les morts. Et ma prière pour vous ce matin, si vous n'êtes pas sauvé, vous ne connaissez pas le Christ comme votre sauveur, vous savez, la seconde mort vous attend, selon la parole de Dieu. Mais ce matin, votre vie pourrait être comme un parfum, une bonne odeur agréable pour le Seigneur. Si vous vous repentez de vos péchés et vous prenez Christ comme votre sauveur personnel. Et deuxièmement, si vous êtes un chrétien authentique, ma prière pour vous et pour moi, que nous puissions tous être fidèles, fidèles au Seigneur. Même s'il ne nous amène pas jusqu'en extrémis, mais que quand même notre vie soit comme un parfum. Comme un parfum pour le Seigneur, pour sa gloire. On va prier. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui nous enseigne et qui nous éclaire. Ma prière, Seigneur, pour nous tous, c'est que nous soyons de ceux qui ont les yeux fixés d'en haut, sur ta personne élevée dans la gloire, sur les récompenses, sur cette vie merveilleuse qui nous attend. Et que nous puissions tous dire, comme avec l'apôtre Paul, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Seigneur, donne-nous de ne pas regarder cette vie terrestre comme étant précieuse. Mais aide-nous, Seigneur, de mettre toute notre faculté, nos forces pour focaliser sur ce qui nous attend. Et dans les souffrances, dans les persécutions, oui, nous savons que tu es là pour nous donner ta grâce, donner ta force. Et Seigneur, que ces principes que nous avons vus ce matin puissent, oui, nous donner cette force, ce courage pour faire face à la persécution si jamais elle nous arrive ou quand elle nous arrivera. Comme ta parole nous enseigne que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, donne-nous de mettre cela en pratique, Seigneur, pour ta gloire. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.